Radio Kapi. Oh, Kapi.
Radio Kapi, il est l'heure du journal. Je suis Gisèle Cage pour vous présenter une information sûre, vérifiée par nos équipes sur le terrain. Voici ce qu'il faut retenir. Roubaix a frappé de plein fouet. Un éboulement matinal parti du site des Gakombe ensevelit des trésors et recouvre des maisons du village Gatabi dans le territoire de Massissi. Ituri, un nouveau groupe armé sort de l'ombre. Le mouvement populaire du Congo installe son état-major à Kantomate et recrute de jeunes sous la houlette de Katembo Kiaviro. Criminalité chronique, l'ICCN renforce sa riposte judiciaire. En vue du journal, Radar Nishuli, directeur du parc national de la Lomami, explique comment la sensibilisation des magistrats et la vulgarisation de la loi vont muscler la lutte contre les crimes phoniques. Ne manquez pas cet entretien exclusif. En Nord-Kivu, la terre a de nouveau frappé et cette fois Roubaix se réveille sous le choc. Un nouvel éboulement s'est produit tout ce samedi matin à Roubaix dans les territoires de Massissi. Selon des témoins, la coulée de terre est partie d'un point situé tout près des puits du site minier des Gakombe. En bas de la montagne, plusieurs creuseurs qui travaillaient au site de lavage des minerais ont été ensevelis. Plus bas encore, dans le village des Gatabi, les habitations entières ont été totalement recouvertes par la terre et le décombre. Le point complet avec Jude, Mister Bilanda.
À la mi-journée de ce samedi, une dizaine de corps ont déjà été extraits des décombres dans les villages des Gatabi, parmi lesquels les corps de 6 enfants. Des témoins sur les sites ajoutent qu'une dizaine de blessés du village ont été acheminés vers les structures médicales locales. Le drame s'est produit aux environs de 4 heures du matin, selon des sources sur place. Elles expliquent que les travaux au site de lavage des mineurs commencent vers 3 heures du matin. Difficile pour le moment d'établir le nombre des creuseurs qui s'y trouvaient au moment du drame. Pour l'instant, les recherches se poursuivent difficilement sans matériel approprié pour dégager la terre et d'autres débris. Entre-temps, les creuseurs dans les puits sur les sites des Gakombe continuent leur travail d'extraction des minerais. Un risque permanent qu'ils ont pris en accédant dans leur quotidien, regrette un habitant sur place. Rappelons que cet éboulement survient 3 jours seulement après celui du site des Gassassa, où les estimations locales font état de plus de 200 morts.
En Ituri, l'approvisionnement en carburant est à l'arrêt et Bounia en paye déjà le prix. Plus de 200 camions citernes sont immobilisés depuis 3 jours au poste douanier d'Azinda dans le territoire de Mahagi à 165 km au nord-est de Bounia. En cause, une grève déclenchée par des chauffeurs étrangers révoltés après l'assassinat il y a quelques jours d'un conducteur somalien par un homme en uniforme sur l'axe Nyoka-Djougou sur la nationale 27. Conséquence immédiate, la flambée du prix du carburant à la pompe à Bounia depuis hier. Le point avec Martial Kizabiamungu.
Ces chauffeurs étrangers, à majorité de Kenya et Somaliens, dénoncent l'insécurité dont ils sont victimes de la part des hommes armés sur la route nationale numéro 27, tronçant plus précisément entre Mahagi et Bounia. Ils citent à titre d'exemple l'assassinat d'un de leurs il y a quelques jours par des hommes en uniforme sur l'axe Nyoka-Djougou, mais aussi des tracasseries d'hommes en armes caractérisées par des demandes de rançon sur cette route. L'un de leurs représentants. L'armée, c'est notre sécurité. On n'y refuse pas. Mais cette sécurité doit être bien insérée. On stoppe les véhicules pour exiger de l'argent. En cas de résistance, on brandit l'arme sur toi, des fois en état d'ivresse. L'administrateur militaire du territoire de Mahagi, le colonel Jacques Dissanola, qui les a rencontrés vendredi, rassure le gréviste de l'engagement des pouvoirs publics à assurer leur sécurité. Entre-temps, les conséquences de cette situation se font déjà sentir dans la ville de Bounia, où les prix du carburant à la pompe est monté en flèche ces dernières 48 heures. Ainsi, un litre d'essence s'est négocié actuellement à 4000 francs congolais, voire 5000 francs contre 3000 francs il y a 3 jours. Bounia, Martial Kiza, Biamungu, Radio Okapi.
Une crise qui s'étend après Bounia. C'est Beni qui subit à son tour une envolée spectaculaire de prix du carburant. C'est samedi, le litre d'essence a bondi de 2500 à 8000 francs congolais en quelques heures. En cause, les camions-citernes qui ravitaillent Beni, Kasindi et Butembo sont bloqués au Kenya pour une raison encore inconnue. Résultat, station-service fermée, route presque vide et le prix des courses à moto en forte hausse. Explication signée Marc Marofimbo.
Aucune station-service n'est opérationnelle dans la ville de Beni depuis samedi matin. Les responsables indiquent que les camions qui transportent les produits pétroliers sont stationnés au site des ravitaillements au Kenya pour des raisons qu'ils ignorent. Par peur d'épuiser leur stock, ils ont choisi de fermer les stations. Du coup, les petits revendeurs, communément appelés Kadhafi, en profitent. Un litre d'essence est passé de 3500 francs congolais à 8000 francs congolais. Des bousculades s'observent aux différents points de vente des carburants chez ces revendeurs où véhicules et motocyclistes cherchent à se ravitailler. À Kassindi-Loubiria, principal point d'entrée des produits pétroliers dans la région, le chef du service national de l'économie appelle les vendeurs de produits pétroliers à éviter la spéculation des prix. Une réunion d'urgence est prévue ce samedi après-midi. Objectif, trouver des solutions à cette situation qui risque d'avoir de graves répercussions sur le quotidien des habitants de la région. Beni, Marc Marofimbo, Radio Kapi.
Dans un tout autre registre, à Kolwezi, la mobilité reprend du souffle. La mairie vient de remettre sur pied la société de transport de Kolwezi en lui offrant 10 bus flambant neufs acquis sur fonds propres pour renforcer le transport en commun. La présentation officielle de ce nouveau charroi s'est tenue jeudi à Kolwezi en présence de la gouverneure du Lualaba qui a salué une initiative répondant aux défis majeurs des mobilités, des personnes et de leurs biens. Pour Jacques Massengo Kindele, maire de Kolwezi, l'acquisition de ce bus marque un pas décisif vers la diversification de ressources nécessaires à la bonne mise en œuvre de la politique urbaine. On l'écoute dans cet extrait sélectionné par Paul Munanga.
Aujourd'hui, la ville de Kolwezi célèbre l'aboutissement d'une vision. Une vision dictée par la diversification de nos ressources propres. Il était temps de penser au projet autoporteur, d'où la nécessité d'accroître les charrois de la société de transport de Kolwezi, Sotracol en cycle. La dotation de ces 10 bus à Sotracol va permettre à offrir à nos compatriotes les conditions de voyage requises au standard international et à un prix défiant toute concurrence sur les trajets compris entre Kolwezi, Likasi, Lubumbashi et vice-versa.
Dans le Kwilu, le désenclavement passe à la vitesse supérieure. Le gouvernement central poursuit sa politique d'ouverture de la province. Après Gungu, le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, John Banza, a lancé mercredi les travaux de réhabilitation de la route Petit Kasai-Bulungu, longue de 60 km, de travaux financés par le programme sino-congolais et exécutés sous la supervision de la CGT qui inclut aussi une bretelle de 27 kilomètres reliant la route nationale 13 à Vanga. Plus de détails avec Blaise Ndongala Mayanda.
C'est à bord d'un bulldozer de la firme chinoise Sinohydro 14 que le ministre des Infrastructures et Travaux Publics a donné les coups d'envoi symboliques des travaux de construction des 87 km de route dans les territoires de Bulungu au niveau du village Petit Kasai. Le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, maître d'ouvrage délégué des ITP, est revenu sur les contours techniques de ces projets. Nikon Zaounzaou.
Concrètement, le projet que nous lançons aujourd'hui comprend les désengagements, les doyens de l'emprise, les travaux de déracinement, écapage, remblai, réglage et compactage sur un longueur total de 87 km.
S'adressant à la population, le ministre des Infrastructures a réaffirmé la détermination du gouvernement à mener ces projets à son terme avec l'appui de toutes les parties prenantes. Grâce au financement du programme sino-congolais, l'entreprise CISC SA avec son sous-traitant Sinohydro 14 procédera dans un premier temps à l'ouverture complète du tracé. La seconde phase consistera au revêtement intégral de l'axe. Une fois achevé, ces travaux permettront le désenclavement de cette partie du pays riche en potentialités agricole, économique et sociale. Cette cérémonie a rassemblé de nombreux députés nationaux, provinciaux et sénateurs élus du Kwilu.
À Kalemie, le lac Tanganyika se dote d'un nouveau cap de sécurité. La régie de voies fluviales a lancé ce vendredi une campagne de balisage destinée à sécuriser la navigation et à fluidifier le transport sur le lac Tanganyika dans la province du même nom. Une initiative portée par la régie de voies fluviales, la RVF, qui veut rendre le trafic lacustre plus sûr et mieux organisé. Paulin Munanga nous en parle.
Le ministre provincial de transport du Tanganyika a lancé cette opération de balisage du lac Tanganyika. Elle partira de Kalundu à Uvira en passant par Baraka et Moba, soit une distance de plus de 450 km. Le commissaire lacustre de Kalemie explique l'importance des balises sur le lac Tanganyika. Jean Kiato.
Les avantages de la balise, c'est pour viser aux navigateurs.
Il y a les signaux qui nous indiquent le danger. Il y a les signaux qui nous indiquent que la passe n'est pas accessible. Il y a les signaux qui nous indiquent que la passe est libre, donc la signalisation est avantageuse aux navigateurs dans les cadres de danger et de prévenir aussi les accidents.
Nous avons des sortes de signaux. Nous avons les signaux fixes et les signaux mobiles.
Ceux qui sont fixes, ça s'installe à la rive.
Le commissaire lacustre précise que les ports de Kalemie et de Kalundu à Uvira ont des balises et des bouées. Cependant, les ports de Moba, Baraka ou Kabimba ne sont pas encore balisés. Le directeur de la RVF, BF supérieur, Henri Nzila, souligne que le balisage des cours d'eau en RDC est un moyen de désenclaver les provinces et de promouvoir une meilleure connectivité. Lubumbashi, Paul Munanga, Radio Okapi.
En Ituri, un nouveau groupe armé se structure dans l'ombre. Dans les territoires de Mambasa, des défenseurs de droits de l'homme tirent la sonnette d'alarme. Un mouvement armé baptisé Mouvement Populaire du Congo serait en pleine formation, dirigé par un certain Katembo Kiaviro. Selon Rams Malikidogo, défenseur de droits de l'homme revenu de la zone, cet homme aurait installé depuis 3 jours son état-major à Kantomat, où il recruterait activement des jeunes pour grossir ses rangs. Pour la société civile, c'est une mauvaise nouvelle. Pour les habitants, la crainte est grande de voir ces hommes armés ériger rapidement des barrières illégales, extorquer de l'argent et s'aimer l'insécurité. Jean-Claude Lokidile fait le point.
D'après les informations recueillies, ce groupe aurait établi son bastion au camp Tomate depuis mardi dernier, près de 10 km du centre des négoces de Biakato. Cette présence inquiète fortement les habitants, déjà confrontés aux exactions et autres tracasseries commises par une mosaïque d'autres groupes armés se réclamant des Wazalendo, rapporte Rams Malikidogo après un séjour dans la zone. Contacté à ce sujet, l'administrateur du territoire confirme que Katembo Kiaviro est un ancien milicien et a autrefois servi dans un groupe armé Maïmaï. Jean-Baptiste Mouyampazi précise qu'il avait été arrêté il y a 2 ans à Makumo avant d'être transféré à la prison militaire de Ndolo à Kinshasa, où il a été finalement relâché.
Il est revenu ici il n'y a pas 6 mois, comme il les a présentés aujourd'hui. S'il prend les armes, il devient bandit armé. Mais il n'est pas encore groupe armé parce que le groupe n'est pas encore identifié. S'il commence là, nous devons nous battre pour le savoir.
Alors que les habitants de Mambasa vivent déjà sous la menace de plusieurs groupes armés, dont des rebelles des ADF, la naissance de cette milice fait craindre une recrudescence des tracasseries dont sont régulièrement victimes les populations rurales. Bounia, Jean-Claude Luki, Dile, Radio Okapi.
Dans le Sankuru, le calme reprend ses droits après une journée sous tension. C'est samedi, la situation est revenue à la normale dans le secteur de Bokonchu, le Kenya, territoire de Kole, après les affrontements qui ont opposé jeudi dernier 2 militaires des FARDC aux habitants de la localité de Wango. Des explications avec Esther Ndalafina.
Selon l'administrateur du territoire de Kole, le bilan provisoire fait état de 4 blessés graves, parmi lesquels le chef de secteur de Bokonchu, Lokenye, 2 militaires et 1 agent de police. D'après les sources locales, les 2 militaires et les policiers avaient été réquisitionnés à Wango par le chef de secteur pour rechercher un homme porté disparu depuis 4 jours dans la forêt. En transit à Longombi, ils ont tenté d'interpeller un habitant accusé par un autre membre de la communauté. L'intervention a suscité l'opposition des villageois qui s'en sont pris aux militaires, aux policiers ainsi qu'aux chefs de secteur, provoquant les blessures. L'administrateur de territoire rassure que la situation est désormais maîtrisée et que les blessés ont été transférés dans un centre hospitalier pour recevoir des soins. D'autres sources sur place signalent la présence de plusieurs militaires et des policiers dans la localité de Longombi. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Dans la province de la Tchopo, la tension grimpe. Les taux judiciaires se resserrent autour du chef de l'exécutif provincial. Le bureau de l'Assemblée provinciale a donné son feu vert au procureur général près la Cour de cassation pour ouvrir une enquête visant Paulin Lendongalia. Le précision avec Jacques Moukonkole.
Le verrou est levé. Vendredi, le bureau de l'Assemblée provinciale a répondu favorablement au réquisitoire de la justice. Sur les 5 membres que compte ce bureau, 3 étaient présents. Ils ont tous voté pour l'ouverture d'une instruction judiciaire contre le gouverneur Paulin Lendongalia. Pour le président de l'organe délibérant, le docteur Mathéus Kangalondimo, il ne s'agit pas encore d'un procès, mais d'une étape technique. La justice a désormais les mains libres pour mener ses enquêtes, fouiller les dossiers et établir les faits. Prudence toutefois dans les couloirs de l'hémicycle. Le président rappelle que le gouverneur bénéficie toujours de la présomption d'innocence. Paulin Lendongalia aura donc tous les loisirs de présenter ses moyens de défense devant les magistrats. Quelle est la suite? Tout dépendra des conclusions du parquet. Si les preuves sont suffisantes, le procureur général devra revenir une seconde fois devant les députés provinciaux. Cette fois, ce ne sera plus une simple enquête, mais pour solliciter une autorisation formelle de poursuite. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Actualité internationale.
En Guinée, le gouvernement a annoncé dans la nuit de vendredi à ce samedi 7 mars la dissolution de 4 partis politiques, dont 3 des plus influents, le Rassemblement du peuple de Guinée, de l'ancien président Alpha Condé, l'Union des forces démocratiques de l'ex-premier ministre Sélou Diallo et de l'Union des forces républicaines de l'ancien premier ministre Sidia Touré. Selon l'arrêté publié, ce parti sont dissous pour non-conformité à la nouvelle législation guinéenne adoptée le 21 septembre 2025. L'annonce a été faite à la télévision nationale où la liste complète de 40 formations visées a été lue à l'antenne. Signée le 6 mars par Ibrahima Khalil Kondé, ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, le document stipule que ces partis perdent désormais le droit d'exercer toute activité politique. Ces décisions, redoutées par une grande partie de la classe politique, tombent comme un verdict sévère alors que les formation disposée officiellement jusqu'au 25 mai pour mettre à jour leur statut, réviser leur règlement intérieur, organiser leur congrès de conformité et fournir la preuve d'un siège administratif dans chaque préfecture du pays.
L'invité.
Notre invité aujourd'hui, Radar Nishuli, directeur chef du site du parc national de la Lomami. Pour freiner l'escalade des crimes phoniques, l'ICCN a lancé une vaste campagne de sensibilisation et de vulgarisation de la loi sur la conservation de la nature auprès de magistrats et du personnel judiciaire. Objectif, renforcer les capacités dans le suivi des infractions, mais aussi clarifier la collaboration entre le tribunal et l'ICCN dans toute la chaîne d'application de la loi. Radar Nishuli est au micro de Florence Kizalunga.
Radar Nishuli, bonjour.
Oui, bonjour madame la journaliste.
Aujourd'hui, vous avez pu réussir à sensibiliser les magistrats et le personnel judiciaire sur l'application de la loi relative à la conservation de la nature et la lutte contre la criminalité phonique. Pour aboutir à quoi?
L'objectif primordial, nous voulons améliorer nos relations avec l'organe judiciaire pour plusieurs raisons. D'abord, nos éléments sont des OPJ. Ils traitent des dossiers aussi des braconniers, mais qui les ramène au niveau du ministère public. La deuxième raison, c'est que tous nos dossiers sont traités là-bas. Nous devons nous assurer que les dossiers sont bien traités et qu'ils sont suivis jusqu'à l'aboutissement de ces dossiers. J'ai voulu organiser vraiment cet atelier pour qu'on se parle avec nos alliés, pour qu'on nous demande comment améliorer le suivi et le traitement des dossiers judiciaires, pour essayer de diminuer ou d'éradiquer la criminalité phonique. téléphonique, surtout que mon pays en général, mais aussi la province de Maniema, était déjà considérée comme une plaque tournante de crimes environnementaux, notamment la capture et vente de perroquets, les pointes d'ivoire qui circulent et qui sont gardées dans des maisons de certaines personnes ici, et tant d'autres espèces qui transitent par ici.
À part ça, vous avez aussi vulgarisé cette loi relative à la conservation de la nature. Quel est son contenu?
Et la loi 14 sur la conservation de la nature, c'est une loi qui essaie d'expliquer un peu ce qui doit se faire et ce qui ne doit pas se faire dans les aires protégées. Et il définit aussi les sanctions et les amendes à payer face à toutes ces sanctions-là. Et nous avons compris aussi que la loi sur la conservation de la nature était une loi qui n'était pas beaucoup connue par nos organes de loi. C'est comme ça que nous avons pensé que multiplier cette loi, leur disponibiliser ça, ça permet quand ils auront des cas de flagrance ou de violation de la loi sur la conservation de la nature, ils peuvent bien se comporter et savoir quelle disposition prendre vis-à-vis des infractions constatées quant à la violation de cette loi-là.
Est-ce que dans le parc national de la Lomami, il y a-t-il des cas de braconnage qui s'observent, bien qu'ils sont enregistrés à tout moment?
Oui, la grande activité qui détruit le parc pour le moment, c'est la chasse. La chasse a quitté les niveaux de substances vers le niveau de commercialisation. Mais ce qui inquiète maintenant, on prend même les espèces vivantes. C'est là où il prend une grande dimension de criminalité faunique, puisque quand on va prendre un perroquet pour l'envoyer en Turquie, tu peux t'imaginer cette chaîne. Donc ça devient un commerce inquiétant qui va risquer de décimer nos ressources naturelles, faire à ce que les enfants de nos enfants puissent un jour confondre un chien à une antilope.
Avec cette série de sensibilisations, pensez-vous que cette relation va permettre maintenant qu'il y ait la remise de l'ordre dans la gestion du parc national de la Lomami?
L'ordre est là, puisqu'il y a la loi. Et il y a des agents qui sont commis à faire appliquer cette loi que nous appelons les éco-gardes. Mais l'activité d'aujourd'hui, pour moi, c'est une sensibilisation, mais plus une prévention. À l'allure où vont les choses, si nous ne prenons pas de prévention, la catastrophe nous attend. Cela veut dire que on veut prévenir la catastrophe en essayant de mettre des mesures, mais aussi en essayant de voir comment, en allier, nous pouvons nous entraider en tant que service de l'État.
Vous les avez sensibilisés aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez faire encore de plus pour eux, pour que cette collaboration puisse demeurer?
Ah, une très belle question. La même question que tu me poses, je l'ai posée à mes amis de droit. Qu'est-ce qu'ils me conseillent pour améliorer ma façon de faire? Mais comment ils pensent nous pouvons travailler ensemble? Et ils ont dit, nous devons multiplier ce genre de séances. Ils nous ont demandé de toujours recourir aux cours de tribunaux quand nous avons des cas. Ils nous ont demandé de mettre un mécanisme de suivi des dossiers qu'on dépose. Ils nous ont encore demandé régulièrement qu'on fasse un état des lieux ensemble. Comme ça, ensemble, nous pouvons être en train de dire, écoutez, main dans la main, nous sommes en train de gérer les dossiers en justice.
Radar Nishul, merci.
Merci beaucoup, madame la journaliste.
Merci à Radar Nishul, directeur du site du Parc national de la Lomami, pour avoir clarifié la stratégie de l'ICCN face à la criminalité faunique. Merci d'avoir suivi votre journal sur Radio Capi, la radio de la paix. Ici, chaque information est vérifiée par nos journalistes et correspondants sur le terrain. Je suis Gisèle Cage, ravie d'avoir été votre voix pour vous informer. Mise en onde, Alain Goy, coordination Jude Mister Bilonda. Restez à l'écoute et retrouvez-nous sur toutes nos plateformes pour une information fiable, complète et toujours proche de vous. Belle soirée à vous.